Alors, nous sommes ici donc Shmot, Mishpatim, chapitre Kaf Aleph, Pasuk Lamed Zayin. Ki yegnov ish shor osé. Quand un homme, il vole un taureau ou une brebis. Utvacho, et il a égorgé. Omecharo, il a vendu. Chamisha bakar yeshalem tachat ashor. Cinq gros bétail, il payera. Tachat, à la place, pour remplacer le taureau. Varbatson, tachat asé. Et quatre brebis pour remplacer la brebis volée. Donc, normalement, quand on vole, on paye le double. N'importe quelle chose qu'on vole. On vole une table, on vole une chaise, on vole un brebis,
si
un taureau.
Si on se fait attraper.
Voilà. Si on se fait attraper, il y a deux témoins qui peuvent prouver que tu as volé. Alors, tu payes le double. Ça, c'est quand tu as volé le taureau ou n'importe quelle chose. Mais si...
Non.
Il paye le double. Il vole un taureau, il paye deux taureaux. Il vole un mouton, il paye deux moutons. Il vole une table, il paye deux tables. Mais si il a volé un taureau, il a égorgé le taureau. Ou il a volé un taureau, il a vendu le taureau. Où il a volé un brebis, il a égorgé le brebis. Où il a volé un brebis, il a vendu la brebis. Là, il paye plus que le double. Alors, pour le taureau, on paye 5. Et pour la brebis, on paye 4. Alors, pourquoi il est plus grave de voler et égorger? Pourquoi c'est plus grave que voler? Parce que quand il vole le taureau, il ne se sent pas encore bien. Il a peur qu'on va l'attraper. S'il vole un taureau, il a peur que les gens ils vont le trouver chez lui.
Ils vont le reconnaître chez lui.
Et donc, il tremble encore. Il ne sait pas s'il réussit. Il a réussi le coup ou pas. Mais s'il a égorgé, on ne peut plus le trouver chez lui. Ou s'il a vendu le taureau, ça y est, on ne peut plus le trouver chez lui. Donc là, il se sent vraiment en sécurité. Il a réussi le coup. Ça y est, j'ai réussi le coup. J'ai égorgé, je mange la viande. Personne ne peut reconnaître le taureau. Ça y est, et comme j'ai réussi mon coup, là, il va devenir peut-être un professionnel. Parce que le grand problème chez les voleurs, c'est que quand on devient un professionnel, quand on vole une fois, alors c'est facile à faire teshuva. On a une fois volé, on regrette, on paye le double, on se fait attraper, on paye le double, et on ne tombe plus dedans. Mais quand on devient un professionnel, c'est grave. Donc s'il a volé, et il a égorgé, et on ne peut plus l'attraper, là, il dit, c'est super à faire, je vais devenir un professionnel. Là, c'est dangereux. Là, il faut lui faire sortir les idées de la tête, et on le punit 4-5 fois.
Il a une voiture et il a maquillé. Il a refait une autre couleur.
Voilà, ça c'est grave, parce que là, il se sent en sécurité. Mais cette halakha, c'est que pour un taureau, que pour une brebis, c'est pas pour d'autres choses. Ceux qui volent un âne, ils vont l'âne, ils ne payent pas 5 fois. Pourquoi c'est que sur un taureau, sur une brebis? Pourquoi c'est pas sur une chemise? Tu voles une chemise et tu vends la chemise. Il n'y a pas cette halakha. Pourquoi c'est spécialement le taureau et les brebis? Peut-être parce que ce sont des objets qu'on peut faire une mitzvah avec. On peut faire un korban. Donc les gens, ils sont des fois malins. Ils volent un taureau et ils se disent comme ça. Si la police m'attrape, si le vent... propriétaire m'attrape, je veux dire, oh, je voulais faire un korban pour Hachem. Alors, il veut se déguiser devant une mitzvah. J'aime tellement Hachem, je veux faire un korban Pesach, je veux vraiment faire un korban, et je n'avais pas la possibilité. Je me suis dit, bon, et je vais prendre d'un Richard un taureau, de toute façon, ce sera une mitzvah pour lui aussi. Moi, je veux faire le korban. Et comme celui qui a offert, entre guillemets, qui est le propriétaire du taureau, il aura sûrement une grande mitzvah au Beit HaMikdash. Et donc, les gens, ils peuvent devenir voleurs avec la justification que je voulais faire une grande mitzvah. Et là, la Torah punit 4-5 fois. C'est-à-dire, en vérité, lui, il n'a égorgé pas au Beit HaMikdash. Mais bon, pendant qu'il a volé, il jouait avec l'idée. Il jouait avec l'idée de quoi? De pouvoir justifier son geste en disant que je voulais faire un korban. Alors, cette idée farfelue, on lui fait sortir de la tête avec 4-5 fois. Pour les autres choses, on ne peut pas dire ça. Alors, imbamachter, c'est-à-dire la justification religieuse de son geste, de son crime d'avoir volé, se justifier par la volonté de faire le service d'Hachem, c'est un grand Yetzarara. C'est un grand Yetzarara de cacher sa volonté de s'enrichir sous un manteau de la religion. Et le taureau et la brebis, ce sont les deux animaux spéciaux pour le korban. Ah, par exemple, un pigeon aussi. Pourquoi pas un pigeon aussi, on peut faire comme korban. Mais un pigeon, c'est moins courant d'abord. Et deuxièmement, il y a moins de bénéfices. Voler un pigeon, on ne devient pas très riche si on vole un pigeon. Ça ne donne pas une grande richesse, ce n'est pas un grand yetzara d'avoir volé un pigeon, un taureau ou un mouton, oui. Alors, imba machteret. Si ba machteret yimatse haganaf. C'est quoi machteret? Choter veut dire normalement creuser. Ba machteret, c'est-à-dire dans le tunnel creusé. Imba machteret yimatse haganaf. Si dans un tunnel creusé, yimatse haganaf, il se fait trouver le voleur. Et on le frappait, va mettre et il est mort. En lo damim, la victime n'a pas du sang, n'a pas de vie, n'a pas de valeur. Ça veut dire quoi? C'est pas grave de l'avoir tué, on a le droit de le tuer. Pourquoi?
Par effraction, il est
entré
en le passage.
Oui, il a creusé un tunnel, lui. En l'odamim, eh bien, il n'a aucune valeur sa vie, c'est-à-dire ce qu'il a tué n'est pas puni. Pourquoi il n'est pas puni? Parce que le propriétaire peut se considérer comme étant en danger de mort. Parce que celui-là qui creuse un tunnel, c'est pour voler. Et si le propriétaire, il dit, mais je ne me laisse pas voler, je vais défendre mon argent, ça peut donner une grosse bagarre. Et dans la bagarre, il y en a peut-être un qui restera sur le carreau. Mais on ne sait pas qui est-ce qui reste sur le carreau. Est-ce que c'est le voleur ou le propriétaire? Alors le propriétaire, il a le droit de dire, moi, je ne veux pas rester sur le carreau, je prends mes devants et je tue cet agresseur. Donc il est considéré comme un agresseur qui veut sa vie, malgré qu'il n'a pas voulu, a priori, la vie. Il voulait voler, mais il rentre dans un système où il veut voler à tout prix. Et si le propriétaire ne le laisse pas voler, il peut devenir violent. Nous considérons le vol comme une agression sur la vie du propriétaire. Donc le propriétaire, il a le droit de se sentir en danger de mort. Il a le droit d'abattre ce voleur. Imzar Hashem Eshalav, mais si le soleil rayonne sur lui. Avant, on a parlé, c'est dans un tunnel, c'est l'obscurité. Mais si le soleil rayonne sur lui, ça veut dire en plein jour, il est rentré pour voler, devant les yeux des gens. Et le propriétaire, il a volé l'agresseur, damim lo. Dans ce cas-là, il a, lui, une valeur. Ça veut dire quoi? Dans ce cas-là, il est considéré comme un être humain, et ceux qui le tuent, eh ben, et ceux qui le tuent, alors quoi?
Il est coupable.
Il est coupable de quoi? Pourquoi on fait une différence entre le jour et la nuit? C'est parce que quand il y a du monde, normalement, il ne vient pas pour tuer. Les gens, ils n'aiment pas de tuer en plein jour. En plein jour, c'est plutôt un vol, un simple vol. Donc, il essaie de voler. Il est au magasin. Tu es un magasin. Il arrive quelqu'un, il veut voler un pantalon. Alors, il ne faut pas le tuer parce que ça suffit que tu lui dis, sortez d'ici, je ne me laisse pas voler, je vous frappe. Alors, en principe, le voleur, il va se sauver. Il ne va pas tuer en plein jour parce que s'il tue en plein jour, un jour, il sait qu'il sera en prison toute la vie ou il sera... Donc ça, il ne veut pas voler, mais
en cachette, il a une possibilité
de tuer et se tirer. Voilà.
Il peut s'en sortir sans se faire attraper.
Et aussi, il a creusé. Le fait qu'il a creusé, il a investi beaucoup. Comme il a investi beaucoup, alors il ne veut pas partir. Il ne veut pas partir sans butin. Il a investi beaucoup, ça veut dire que c'est un homme qui est capable de faire n'importe quoi. Imzarcha Hashem Eshalaf, si le soleil rayonne sur lui. Alors, Damim Lo, là, il a vu une valeur. Donc là, ce qui le tue, il est Chayaf. Shalem Yeshalem, payer, il doit payer. De qui on parle? On parle ici du voleur. Jusqu'à maintenant, on parlait sur la responsabilité du propriétaire. Si le propriétaire, il a tué. Bon, Damim Lo, ici, c'est fini. Maintenant, il arrive un nouveau sujet. Qu'est-ce qu'on fait avec le voleur? Le voleur qui a volé, est-ce qu'il paye ou il ne paye pas? Alors le texte dit Shalim Yishalim, le voleur doit payer. Im en lo, et s'il n'a pas quoi payer, Benimkar Begneivato, il sera vendu pour rembourser l'objet qu'il a volé. Pourquoi on dit Shalim Yishalim, payer, il payera? Pourquoi il y a un double lachon?
Il paye deux
fois. Soit parce qu'il paye deux fois, parce qu'il y a un halakha qu'il faut payer le kefel. Soit c'est une façon de dire tu n'échapperas au paiement. Payer, tu payeras. C'est-à-dire, si tu crois que tu vas te tirer, tu ne payeras pas, on va t'attraper un jour. Payeras, tu payeras. Et ne crois pas que tu échapperas. Et pourquoi ce phénomène de payer est marqué seulement dans Pasuk Bet quand il y a le soleil qui rayonnait, quand il est venu en plein jour? Et quel din s'il est venu en nuit, pendant la nuit, par le passage, et il ne s'est pas fait abattre, mais il a réussi à voler. Est-ce que dans ce cas-là, il paye ou il ne paye pas le vol? Alors, ça, c'est intéressant. Le din, il est qu'il ne paye pas. Si un homme, il vient dans un tunnel et le propriétaire, il a le droit de le tuer, donc, si le propriétaire ne l'a pas tué, mais par contre, lui, il a volé l'objet, il n'est pas obligé de payer. Pourquoi le voleur?
Il a risqué sa vie.
Parce qu'il a risqué sa vie et la Torah ne donne jamais deux punitions. Il y a ici une punition, il y a ici l'épée de Damoclès sur sa tête, on a le droit de lui tuer, la Torah elle a condamné à mort pour quelques minutes, pour les minutes qu'il est en danger de mort, qu'il met en danger de mort le propriétaire, il a mis donc sa propre vie en danger de mort. Pendant ce moment-là, la Torah permet au propriétaire de le tuer, donc il est condamné à mort pour quelques minutes. Donc, s'il a fait un autre crime dans ce moment-là d'argent, il n'est pas obligé de payer. Donc, s'il a volé l'objet et il a cassé l'objet, il n'est pas obligé de rembourser. C'est pour ça, le shalem yeshalem, c'est seulement quand il vole en plein jour, où le din il dit que si le propriétaire le tue, il est condamné à mort. Ça veut dire que le voleur n'a pas mis en danger de mort le propriétaire. Comme il n'a pas mis en danger de mort le propriétaire, il a réussi à voler, donc il est obligé de payer. Si maintenant il n'a pas d'argent à rembourser, pourquoi il a mangé ce qu'il a volé, il a cassé ce qu'il a volé, il a vendu ce qu'il a volé, il sera vendu à cause de son vol, c'est-à-dire quoi? Il sera vendu à titre de quoi? Esclave. Donc il va travailler pendant 6 ans afin de pouvoir rembourser ce qu'il a volé.
Il est condamné pour une durée qui correspond à la valeur double de l'objet ou à la valeur de...
Il me semble que le din il est que seulement si c'est pile. Si le vol vaut plus ou le vol vaut moins, il n'est pas vendu.
Voilà, il a volé un taureau qui coûte 5 000 euros.
5 000 euros pour travailler pendant combien, 6 ans, c'est pas assez.
Il va travailler,
c'est un an de travail.
Si pour 6 années être vendu, ça vaut 15 000 euros, et lui, il a volé que 5 000 euros, il me semble, on ne le vend pas du tout. Soit on vend pour 6 ans, soit on ne vend pas du tout. Et comme pour 6 ans, c'est 15 000 euros, mais lui, il ne doit que 5 000 euros, il me semble, le dîner qu'il n'est pas vendu. Si l'objet volé sera trouvé dans sa main, Michor, que ce sera un taureau, Atramor ou un âne, Atse, jusqu'à un mouton, Chaim, on les trouve vivants, Shnai Mishalem, il payera deux. Pourquoi on dit Chaim vivant? Qu'est-ce que ça change si c'est vivant ou pas vivant?
Avoir des petits.
Pourquoi on dit Chaim vivant? Alors Rashi, il étudie, Rashi dit Chaim Shnaim. Le mot Chaim se met ensemble avec Chaim Shnaim et Shalem. Il paye deux vivants. Il paye pas des morts, il paye des vivants. Ne crois pas que tu peux me rembourser le vol avec des taureaux morts. Tu dois me payer avec des vivants. Mais Pshat Pashut, il est le Chora, le mot Chaim, il y a un etnar, c'est-à-dire un virgule après le mot Chaim. Donc le mot Chaim, ça se rapporte sur ce qui est marqué avant. Si on trouve le vol, on trouve encore les animaux vivants. Alors, Shnaim et Shalem, deux, il paye. C'est-à-dire, si la bête, elle est vivante, tu rembourses la bête et tu payes une deuxième. Et si la bête, elle est morte,
tu rembourses deux vivants.
Non,
on a vu avant, il paye 5, il a
Non, il ne paye pas 5. 5, c'est seulement si on a égorgé.
Ça, s'il a égorgé, pardon.
Si on a, s'il a égorgé, s'il n'a pas égorgé, elle est morte chez lui.
Elle est morte chez lui.
Dans ce cas-là, on ne paye pas 5 fois, on ne paye que 2 fois. Pourquoi la Torah nous dit
il paye deux, parce qu'il paye deux vivants à ce moment-là.
Alors pourquoi si.
Il a volé le vivant, il doit payer le vivant. En tout cas, la valeur des vivants, il peut payer avec de l'argent. Il a volé un taureau vivant, il doit payer la valeur de taureau vivant.
Et s'il est mort pendant le trajet,
oui.
il repaye deux vivants.
Il paye le prix des vivants. Pourquoi on dit imhimatse biadokneva? Si on a trouvé dans sa main le vol. Pourquoi il est marqué deux fois Himatse, Timatse?
Ils ont fait une enquête, ils ont mis des détectives privés, la police, ils ont cherché.
Himatse, trouvé dans sa main. Deux fois trouvé, ça veut dire en fouille.
Parce qu'il a caché. Il l'a caché.
En fouille chez lui.
On va lui faire une perquisition.
Le voleur, il doit savoir qu'on va faire une perquisition. Il n'échappera pas. Aujourd'hui, c'est plus facile à faire les perquisitions qu'autrefois. Aujourd'hui, avec les films et les photos et les iPhone et tout, on voit aujourd'hui les vols plus faciles. Les choses, ils se dévoilent plus qu'autrefois. Aujourd'hui, c'est difficile à se cacher. Les voleurs et les trompeurs et les trucs, on peut les attraper. De plus en plus en plus, ça va se dévoiler. Bon, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté de la police et de la justice. Est-ce qu'on veut vraiment aller jusqu'au bout? Mais on ne peut plus faire des coups comme autrefois. Alors, qui yaver issade ocherem? Si un homme yaver, c'est quoi yaver? Il a détruit. Un homme qui a détruit sade, un champ, ocherem ou une vigne. Comment il a détruit? Pas lui personnellement, mais shilach et beiro, il a envoyé son troupeau. Ou BR, et ce troupeau BR, il a détruit ou il a brouté Pisdei Acher dans le champ de quelqu'un d'autre. J'envoie mes troupeaux pour qu'ils mangent chez mon voisin. C'est bon, c'est pas cher ça. C'est bon comme ça, vous avez 50 euros, vous voulez pas acheter quoi manger, oui. Vous l'envoyez dans le champ de copains, il revient le soir à sa vie. C'est un bon système ça. Il y en a qui font ça avec des taureaux, il y en a qui faisaient ça avec des soldats autrefois. On se sert. Alors, Vishilach et Biro, Biro, Meitav Sadeyu, le meilleur de son champ, ou Meitav Karmo, et le meilleur de sa vigne, Yeshalem, il paye. C'est de quoi le meilleur de son champ? Alors, le meilleur quoi? Le meilleur produit du champ ou le champ lui-même? Alors, ça dépend. Il peut payer avec de l'argent, il peut payer avec des objets. S'il n'a pas d'argent, s'il n'a pas des objets, mais il n'a que des terrains, eh bien, il doit payer le vol, le dégât avec son terrain. Et s'il a des bons terrains, des mauvais terrains, il doit payer le meilleur des terrains.
Du meilleur de son terrain, lui. De lui donner.
Donc, lui, il a envoyé ses troupeaux, ils ont brouté, ça coûte 20 000 euros le dégât. Donc, il faut payer 20 000 euros. Tu n'as pas d'argent, tu paieras un terrain qui vaut 20 000 euros. Maintenant, qu'est-ce que c'est un terrain qui vaut 20 000 euros? Tu n'as un super terrain, un grand... Un petit super terrain ou un petit mais mauvais terrain, tu dois donner le meilleur que tu as.
Même si
tu as le meilleur de ton terrain, mais tu as le meilleur de ta vigne, Yeshalem. Pourquoi la Torah demande de payer avec le meilleur?
Parce que ça, c'est pour lui faire la même chose qu'il a fait à l'autre. Il lui a pris de son meilleur. Donc
et s'il n'a pas pris le meilleur, s'il n'a pas pris le meilleur, il a brouté un bel qui n'est pas très bien. Quand même pour dissuader les gens, c'est-à-dire les gens qui savent que si ils font pas attention sur leur troupeau, alors on va leur prendre la meilleure terre. Alors là, ça fait très mal. On va payer avec une terre, de toute façon j'ai une terre quelque part que je ne peux pas vendre, personne ne veut acheter, personne ne s'intéresse à un terrain, n'importe quoi. Bon, à la rigueur, je paye cela, ça ne me dérange pas, mais la meilleure terre, je serai obligé de donner ça, ça fait mal aux gens. C'est comme aujourd'hui, ils ont trouvé avec le permis de points. Si on fait des fautes, ils enlèvent les points. C'est les meilleures punitions qui existent. Parce que tant qu'on paye d'argent, alors ils doivent payer. C'est pas grave, on va payer. Ils enlèvent les points. Après, on risque de rester.
Sans voiture.
Ça fait mal aux gens. Oh là là, ça, je veux pas marcher à pied et pas avoir ma voiture. Ça fait mal aux gens. Donc, ils ont bien fait les mecs de mettre les points. Paye le point, le meilleur. Qui t'aïtseïèche? Quand le feu sort, qui t'aïtseïèche? Quand le feu il sort, ou Matsakotim, mais ça trouvait comment on dit, kotsim.
Des ronces, des échardes.
Kots, c'est une plante qui est sec, qui est piquante.
Des mauvaises herbes.
Ça veut dire qu'elle ne donne pas des fruits. Là, les arbustes qui donnent des fruits, ils sont humides. Comme ils sont humides, ils attrapent le feu pas tellement vite. Mais les chardons, c'est pas des fruits.
Des ronces, des chardons, des trucs comme ça, ça reste.
Ça attrape facilement le feu.
Mauvaises herbes, ça reste sec, ça.
Quand le feu il sort de ton champ, au Matzakotim, ça trouve du chardon, Benechal, Gadish. Et le meule de foin se fait consumer. Au Hakama, ou le blé qui est encore sur le champ.
La moisson.
Au Hassadé, ou c'est le champ entier. Shalem, Yeshalem, payé, il payera. Hamavir et Abeira, ce qui a allumé le feu. Donc la Torah nous dit allumer un feu sans surveillance. Et le feu, il est parti chez les voisins. Il a fait un dégât. Monsieur, vous payez. Monsieur, vous payez. Qui est un ishel reyou? Un homme qui donne à son copain kesef, de l'argent. Auquel il met ou des ustensiles lishmor pour conserver. Bekunav beta ish. Et ça a été volé de la maison du monsieur. Alors, pourquoi c'est marqué mi beta ish? On aurait dû dire mi bet reyou. On dit qu'il est un ish el rehu, ish, il a donné rehu, et ça a été volé où? Dans la maison de rehu. Pourquoi la Torah nous dit v'gonav mi bet ha'ish? Pourquoi pas v'gonav mi bet rehu? Au début, c'est pas marqué qu'il est un ish el ish. Qu'il est un ish el ish. On dit qu'il est un ish el rehu. Peut-être la Torah n'appelle plus rehu parce qu'il n'est plus mon ami. Il s'est fait voler mon objet, ça y est, c'est plus mon ami celui-là. Si on a trouvé le voleur, le voleur il payera le double. Si on n'a pas trouvé le voleur, alors le propriétaire de la maison il doit se rapprocher vers les juges. Et qu'est-ce qu'il doit dire? Si jamais il n'a pas envoyé la main sur l'objet de son copain. Ça veut dire quoi? Il doit venir chez les juges pour jurer qu'il n'a pas pris l'objet pour lui-même, parce que les propriétaires soupçonnent. Monsieur, où est mon objet? Vous n'avez pas pris cet objet. Vous n'avez pas pris cet objet pour vous-même. Jurez-moi que vous n'avez pas pris. Alors il doit jurer. Venikrabal habayit Elohim, le propriétaire de la maison. Il doit s'approcher El Ha Elohim. Ici, Elohim, bien sûr, ça veut pas dire Dieu. Il s'approche chez les juges. Et pourquoi il s'appelle ici Elohim? Parce que le mot Elohim peut s'interpréter les juges aussi. Et pourquoi la Torah utilise un mot tellement fort? Les juges en chair et en os, la Torah leur donne.
C'est le représentant de Dieu sur terre.
C'est le représentant de Dieu. Ils ont la mission d'appliquer la sentence divine. Il faut que les gens qui se disputent, ou les types là qui doivent jurer, ils doivent se sentir comme s'ils se sentent devant Dieu. C'est-à-dire, tu vas jurer maintenant. Et jurer, c'est pas une blague. Tu dois jurer avec le nom de Dieu. Tu dois dire, au nom de Dieu, je déclare que quoi, que j'ai pas pris cet objet. C'est pas moi qui a mis la main dans le sac. L'objet a été volé. Je trouve plus l'objet. Sûrement a été volé, mais en tout cas, moi, j'ai pas pris cet objet. Alors ça, il faut le jurer devant Dieu et devant les juges.
On a le droit de jurer devant Dieu avec son prochain, en disant,
oui.
Je ne t'ai pas volé, je te jure.
Contre la Bédine oblige, sinon
non,
il sera obligé de payer s'il ne veut pas jurer.
Sans Bédine, entre deux personnes stables. Sans Bédine devant, est-ce qu'on a le droit de jurer en citant Dieu?
Si on dit la vérité ou si on dit faux?
Si on dit la vérité.
Si on dit faux, on n'a pas le droit de jurer. On a le droit de jurer qu'on a volé, oui. On n'a pas le droit de jurer qu'on n'a pas. Alors, est-ce qu'on a le droit de jurer? Peut-être, oui. Mitzat ikaradin. Si quelqu'un me soupçonne d'avoir fait tort et il pense que moi j'ai volé l'objet et moi je déclare que je n'ai pas volé, il me soupçonne. J'ai le droit de jurer. Bon, c'est pas bon de jurer, c'est pas mieux vaut éviter. Mais d'après les Ikradin, on a le droit de jurer. Je vais aller au Bedin et je jure au nom de Dieu que ce n'est pas moi qui ai pris l'objet. Alcool de bar pécha. Sur chaque chose de pécha, de péché, ça veut dire quoi? Alcool de bar pécha. Sur quelque chose de pécha, c'est grave. Pécha, c'est un crime. Sur tous les crimes que l'homme il est soupçonné d'avoir fait, Al-Shor, on lui a donné un taureau à garder, Al-Khamor, on lui a donné un âne à garder, Al-Sé, un mouton, Al-Salma sur un habit, Al-Kol Aveida, sur chaque objet perdu, Asher Yomar, que le gardien il dira, Kihu Zé, Kihu, lui Zé, celui-là, c'est-à-dire quoi? Il dira, Kihu. Lui, l'objet que tu me donnes, c'est ça, elle n'est plus là, monsieur. Je viens avec les mains vides, je peux vous répondre, je peux vous redonner, vous voulez le taureau, c'est ça. Voilà, la maison, elle est vide, le taureau n'est pas là. Kihou, ce que vous me donnez, c'est ça que je peux présenter. Ad Elohim, jusqu'au juge, Yavo viendra devar Shnehem, la parole des deux. La parole des deux arrive jusqu'au juge. C'est-à-dire, les deux, ils doivent se disputer devant le juge. Jusqu'à Dieu, jusqu'au juge, jusqu'à Dieu. C'est-à-dire, on dit ici le mot Dieu pour que les gens ils savent que pour un simple taureau, pour une simple brebis, les paroles ils viendront chez Dieu. Parce qu'il y a des gens qui peuvent penser, mon Dieu, il ne s'occupe pas des choses comme ça. Lui, il s'en fiche complètement. C'est mon taureau, c'est son taureau. Moi, je lui ai donné le taureau, il a fait attention, il n'a pas fait attention. C'est une histoire de Torah. Le bon Dieu, il a d'autres choses à faire dans le monde que se regarder si je mens ou si je mens pas. Il dit, mais non, pas du tout comme ça. Mais tu trompes, mon ami. Ad Elohim, Yavod Dvar Shnehem.
Est-ce qu'on peut dire là qu'il faut qu'un juge il écoute les deux pour juger? C'est écrit, il faut que la parole des deux, non?
Oui.
Ouais, c'est-à-dire, si un juge n'entend qu'une personne,
mais c'est interdit.
Il n'a pas le droit.
Ad Elohim Yavo Devar Shnehem, les paroles des deux. Et pourquoi il dit les paroles des deux? Beslama, celui à qui je donnais l'objet, lui dit l'objet est volé, moi je soupçonne que quoi qu'il n'a pas volé. Lui dit l'objet est volé, mais moi je soupçonne que lui-même il a volé. Alors on dit, ben, monsieur, faites une déclaration devant Dieu que vous n'avez pas volé l'objet. Mais moi, comme propriétaire, on dit, toi aussi, les paroles des deux arrivent devant Dieu. C'est-à-dire, même ceux qui réclament, il doit se rendre compte qu'il présente ses arguments devant Dieu. Ça veut dire que si lui, il sait la vérité que l'autre n'a pas volé. Imagine, non. Moi, je sais que l'autre n'a pas volé. Je suis sûr et certain que quoi, qu'il se fait voler. Mais comme je le connais, l'autre qui ne voudra pas jurer, donc je vais réclamer. Et l'autre, je sais qu'il craint de jurer, donc il va me payer l'objet. Parce que le Bedi va dire, ou vous jurez, ou vous payez. Moi, je connais l'autre, il ne jurera pas, il va me payer, donc je peux gagner. Mais en vérité, dans mon fort intérieur, je sais que l'autre dit la vérité. Eh bien, c'est interdit. C'est pour ça que la Torah nous dit, jusque devant Dieu arrivent les paroles des deux. C'est-à-dire,
donc toi, les deux sont présumés coupables.
Non, ce n'est pas présumé coupable. Hein. Tu parles devant Dieu, sache, tu parles devant Dieu, ça veut dire tu embêtes Dieu. Tu demandes Dieu qu'il intervienne. Donc, si dans ton cœur, tu sais très bien que c'est vrai que l'autre, il n'a pas volé l'objet, donc tu demandes à l'autre de jurer, demande le bédine et demande Dieu s'intervenir, mais tu sais très bien que l'autre est innocent, qu'est-ce que tu fais des histoires maintenant? C'est pour ça que la Torah dit, ça vient devant Dieu les paroles, et si tu embêtes Dieu pour rien, c'est pas simple ça. Asher Yarshion Elohim, celui-là que les juges y vont rendre coupable, Yeshalem Shnaim, il payera deux, les rayons à son copain. C'est-à-dire, si le Bedin rend coupable l'autre, parce qu'en vérité, il a lui volé la chose. S'il a lui volé la chose, ou s'il a juré qu'il n'a pas volé, mais après on trouve l'objet chez lui. Donc, monsieur, vous avez donc bien.
Payé faux.
Vous avez juré faux. Eh bien, vous me remboursez maintenant deux. Vous me remboursez deux. Yeshalem Shnaim, les rayons. Pourquoi c'est pile Shnaim? C'est-à-dire, ça, c'est dissuasif. Tu croyais que tu peux faire un coup voler un taureau, mais maintenant c'est à coup de deux taureaux. Ce que tu as voulu faire à l'autre, eh bien, c'est ça que tu es puni.
Ça coûte, on lui rend le taureau et on paye deux, ça fait non. Trois, ou bien
c'est. Non, on rend le taureau et on ajoute un. C'est mida keneged mida. Toi, tu as voulu priver ton copain de 10 000 euros, eh bien, tu payes maintenant 10 000 euros.
Ça marche comment? Comment ça marche? Parce que celui que les juges condamneront, donc ça veut dire que même
celui qui est accusé à tort, il doit payer si jamais c'est pas vrai.
Qu'est-ce qui n'est pas vrai?
Il y a celui que les juges...
L'accusateur. Le propriétaire, qui dit qu'il lui a volé. En fait, tu ne l'as pas volé. Est-ce qu'il doit payer deux aussi, lui aussi?
Non, le propriétaire ne lui dit pas que tu volais. Le propriétaire, il dit, j'ai déposé mon taureau chez vous, monsieur. Rendez-moi le taureau. L'autre, il dit, votre taureau a été volé. Maintenant, moi, j'ai dit, peut-être vous dites la vérité, peut-être vous mentez. Jurez-moi que vous n'avez pas volé. Alors l'autre, il doit, soit il jure, soit il ne veut pas jurer, il me paye le taureau. Maintenant, si moi je mens, mes paroles ne sont pas en question à première vue. Moi, j'ai dit que j'ai donné un objet. L'autre, il dit, c'est vrai, vous m'avez donné un objet, je reconnais, vous me donnez un objet. Seulement, je dis que la chose a été volée, je vous dis. Donc, je ne suis pas tour de payer, voilà la question.
D'accord.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le propriétaire ne payera jamais deux. Sauf si c'est lui-même, il a volé. Ah, c'est lui. Si le propriétaire lui-même, il est parti dans la maison de l'autre, il a récupéré son taureau. Ah non, en vérité, je ne sais pas s'il s'appelle voleur, parce que je prends mon propre taureau.
Oui, mais il accuse.
Il accuse,
d'accord. Comment il écrit alors que chacun, celui que les juges condamneront, celui, c'est-à-dire, c'est pas celui des deux. C'est-à-dire que...
Si.
Il ne peut pas...
Hacher, c'est si. Si les juges condamneront l'autre.
C'est pas être, ça aurait été être. Ça aurait été être.
Hacher, si les juges le condamnent, qui l'autre, le gardien de cet objet, voilà, si les juges considèrent que le servant qu'il a fait, il est accepté, il a juré qu'il n'a pas volé, d'accord, on accepte ça, il n'y a personne payé. Mais si le type, il dit, je veux jurer, le bête, il dit, vous ne pouvez pas jurer, on vient d'avoir des témoins que l'objet, vous avez volé l'objet. Alors, dans ce cas-là, Yarchion Elohim, aussi, il y a des témoins qui sont venus que lui-même il a volé ce taureau. Ça veut dire le gardien du taureau, il a utilisé le taureau. Il payera deux réaux à son copain. Ici, c'est lui marqué copain. Ici, c'est marqué lui copain. Aussi, dans Pasuk Zayin, à la fin,
là, la différence, c'est que là, il lui a donné la tentation. C'est-à-dire que le fait de garder les...
Ça veut dire, ici, Rehu, c'est le patron. Dans Pasuk Gimel et Pasuk Dalet, Rehu, son copain, c'est le patron. Mais dans Pasuk Vav, c'est marqué, Begunaf, mais Betaïch, c'était volé de la maison de l'homme. Ça, c'est le gardien. Le gardien, il s'appelle plus mon ami. Alors, qui est un Ish? El Rehu, un homme qui donne à son copain, Hamor un âne, au chor ou un taureau, au sé ou un mouton, le chol behema, n'importe quel animal, l'ishmo pour garder, pour surveiller. Alors, le chora, c'est la première des choses, c'est la même chose qu'avant. Avant, c'est marqué qui, t'inish el Rehu, qu'est-ce que nous l'ishmo? Un homme qui donne de l'argent ou des objets à garder. Et ici, c'est la même chose, mais il y a une différence parce que les. Pasuk Vav, qui est initial Réo, Kesev Akelim, on parle que je demande à un homme garder gratos. Je demande à un ami qui est initial Réo, un homme qui donne à son copain Kesev de l'argent au Kelim ou des ustensiles, Nishmo pour garder et je ne paye pas.
Comment c'est?
Alors ça, il y a tous les calculs. Alors dans ce cas-là, le din il est, Begunav, si c'était volé, alors si c'était volé, et le bedi, alors le chômeur n'est pas obligé de rembourser. Parce que le chômeur chinam, ceux qui surveillent gratuitement, et ça a été volé, il n'est pas responsable. Maintenant, dans Pasuk, par contre, dans Pasuk Tet, qui est Michel Rey, ou un homme qui donne à son combat chamor, un âne, au chor ou un taureau, ou c'est, ou un mouton, ou n'importe quel aliment, l'ishmo pour garder. Ici, on parle qu'il a payé pour qu'il garde. Vamet, le taureau, il est mort, au nishbar.
Pourquoi il appelle prochain deux jours, les deux? Parce que c'est pas le même.
C'était mon ami.
C'est pas forcément ton ami s'il le paye. Autant on donne en confit à quelque chose et garder un ami gratuit. Ça,
un ennemi, pas, je donne pas à garder.
Mais pas un ennemi, on n'est pas ou ami ou ennemi. Quelqu'un qu'on connaît pas, il n'est pas ami forcément, il n'est pas ennemi non plus.
Ah, peut-être se dire, même s'il est ami, il payera quand même. Ne crois pas parce que tu es un ami. Alors, c'est pas grave si tu me fais. Si, alors, c'est oui grave. Alors. Il est mort, ou met, il est mort, au nishbar, où il s'est cassé, les bras. Au nishbar, où il s'est fait prisonnier le taureau. En roé, et il n'y a personne qui a vu. On ne sait pas où est la vérité, il n'y a pas de témoin. Soit, Hashem, Tie, Ben, Shenehem, le serment de Dieu sera entre les deux.
Mais Khila, comment vous avez. Il y a marqué sur le texte qu'il est payé. Je vois pas où il est le mot payé.
Non, c'est pas marqué, mais on est obligé d'interpréter comme ça.
Si, ah, oui,
parce qu'ici, c'est pas marqué que ça a été volé. Ici,
d'accord.
C'est marqué qu'il est mort.
D'accord.
Pourquoi la Torah ne parle pas que ça a été volé? Parce que s'il était volé, il est obligé de payer.
D'accord.
Un chômeur, chénam, si c'était volé, il n'est pas obligé de payer. Mais un chômeur, sachar, comme je lui payais, même si c'était volé, il est obligé de payer. C'est pour ça que la Torah nous dit, s'il est mort, là, il n'est pas toujours mort, c'est un honnête. Et pourquoi il y a une différence dans, on avait dit, dans Pasuk Vav, où on parle Shomer Chinam, on parle, je lui donne de l'argent ou des ustensiles. Et dans Pasuk Tet, on parle que je lui donnais des animaux. Parce que, normalement, à qui je paye? Quand je confie une vache ou je confie de l'argent, à qui j'ai plus susceptible de payer?
À ceux que je confie une vache.
Pourquoi?
Parce que de l'argent, c'est de l'argent.
Parce qu'il faut le nourrir.
Parce qu'il faut le nourrir, parce que c'est du travail.
Ah oui, d'accord. C'est
l'argent, il met dans son coffre fort, et voilà, normalement, il est tranquille. Donc, il n'y a pas de travail à faire. En tout cas, étant donné que normalement, l'animal, c'est fatigant, donc on paye. Donc, la Torah, elle a choisi le cas des animaux quand elle aborde la question, le cas de celui à qu'on paye. Alors, Omet, il est donc mort, le taureau, au Nishbar, où il s'est cassé. Au Nishbar, où il s'est fait prisonnier. Prisonnier, ce n'est pas un simple vol, c'est-à-dire. Un simple vol, c'est un voleur, il est venu sans armes. Nishbar, c'est avec armes. Donc, c'est un cas de force majeure. Dans ce cas-là, Shvuat Hashem, le serment de Dieu, qui est, il sera Bein Shnehem, entre les deux. Qu'est-ce qu'il doit jurer? Qu'il n'a pas envoyé sa main sur l'objet de son copain. C'est-à-dire, le gardien, il doit jurer. Il n'a pas utilisé la bête. Shalach yado. Il n'a pas envoyé la main pour l'utiliser. Parce que s'il a utilisé la bête et après il est arrivé un accident, c'est foutu, il est obligé de payer. Un gardien n'a pas le droit d'utiliser l'objet qu'on lui donne. Et s'il a utilisé, alors on peut traduire de différentes façons. Imloshalach yado, il n'a pas envoyé la main pour la voler, pour la égorger. Mais en vérité, même si tu n'as pas volé, même si tu n'as pas égorgé, tu as seulement utilisé, eh bien, tu, à partir de ce moment-là, tu es voleur et tu es responsable si l'objet, il se perd. Imloshalach yado, il n'a pas envoyé la main. Bimlechet re'eu, c'est quoi melechet? Le travail de son copain. En vérité, il n'a pas volé le travail, il a volé l'argent de l'autre, la bête de l'autre. Mais la bête, elle s'appelle maintenant Melechet Re'eu, le travail. C'est-à-dire, la bête qu'il a achetée grâce à son travail. C'est-à-dire, le propriétaire de la bête, il a bossé pour trouver de l'argent, pour s'acheter un taureau. Maintenant, il m'a confié ce taureau. Donc tu sais, tu ne voles pas un taureau, tu voles le travail qui a fait que lui, il a gagné. Pourquoi le taureau s'exprime comme ça?
Mais le taureau, c'est aussi un outil de travail.
Le taureau, c'est
un outil de travail aussi.
Un outil de travail aussi. C'est un outil de travail, tu lui voles un outil de travail et aussi, il a travaillé pour avoir ce taureau. Donc, il faut que tu comprends, tu lui voles son travail, l'équipe, il a travaillé pendant un mois pour gagner assez d'argent pour acheter un âne, et toi tu voles cet âne, ça c'est grave. Tu as volé son travail, alors le propriétaire il doit prendre quoi? Le serment. L'autre n'est pas obligé de payer, c'est-à-dire s'il ose de jurer, eh ben, je ne peux rien faire de plus, je prends le serment. C'est-à-dire quoi? Je prends le cerveau. Le serment. Qu'est-ce que je vais faire avec le serment? Je vais prendre le serment, je le mets dans mon coffre-fort. Merci beaucoup. Mais la carte, ben alors, le propriétaire, il prend, je prends quoi? Tu te moques de moi? Je prends quoi? Je prends de l'air. Non, je le garde, ce serment dans mon truc. Et le jour que je trouverai que toi, tu as utilisé mon taureau, je te le fais sortir, cette joie. Ne crois pas, cette joie, elle est oubliée, elle ne sera pas oubliée. Tu as juré que tu n'as pas profité de mon taureau? Comme ça, tu as juré? Tu crois que j'oublie maintenant? L'affaire est finie. Eh bien, je n'oublie pas. Je prends le serment, je le mets dans
un endroit. Il n'y a pas de prescription, quoi. C'est-à-dire qu'un an après, il s'aperçoit qu'il est
fou. Un année après, il arrive deux témoins, on a vu ce monsieur, il a pris votre âne, il a fait ta âne. Ah, je fais sortir le serment, monsieur, vous n'avez pas juré à l'époque. Vous n'avez pas juré, je le prends. Mais l'eau est chalet, mais l'autre n'est pas obligé de payer. Vinganov, Viganev, Mimo. Et si ça a été volé, sans cas de force majeure, si ben, un voleur il a volé l'objet chez le gardien.
Parce qu'il était bien gardé, vous avez entendu, parce qu'il était pesé négligemment.
Non, même s'il n'a pas fait de négligence. Un voleur, il est venu, il est chalem, les balaves, il est obligé de payer parce qu'il
est payé pour garder.
Quand je vous paye pour que vous soyez gardé, vous êtes obligé de vous battre pour mon objet. Pas en danger de mort, pas si l'autre il avait un revolver, vous n'êtes pas obligé de vous battre. Mais si l'autre n'a pas de revolver, vous êtes obligé de vous battre. Vous devez protéger parce que vous étiez payé pour ça. Donc, si c'était volé, parce que vous n'avez pas voulu vous battre, alors, dans ce cas-là, il est obligé de payer à son patron. Si ça a été déchiqueté, si le taureau s'est fait déchiqueter par une fauve, quoi, un lion est venu, il a déchiré la brebis. Apporte un témoin qu'il y a un lion qui a été vu dans cette région. Et si tu n'apportes pas de témoin.
C'est le témoin qui a vu un lion ou c'est le témoin qui a vu la bête déchirée?
Le témoin, il a vu.
Il revient, il dit elle était déchirée.
Oui, il doit voir comment le lion il déchire. Si le témoin il voit que le lion il a déchiré, en ce cas-là il n'est pas tour. Mais s'il n'a pas vu, il faut que tu jures que ça a été déchiré. Imtorof yitref yoed apporte un témoin ou un témoin un serpent.
Excusez-moi, un témoin ça suffit là ou il faut deux témoins?
Il faut deux témoins.
Singulier.
Quand c'est marqué ed, ça veut dire deux témoins. Le mot « aide » veut dire « témoin », c'est-à-dire deux témoins. Comme la Torah le dit, deux témoins, il faut toujours deux témoins. Donc, deux témoins, ils s'appellent « aide ». Il veut ou « aide » à « treifa » lo yeshalem. Et dans ce cas-là, il n'est pas obligé de payer la « treifa » parce que « treifa », c'est déchiqueté. Déchiqueté, c'est un cas de force majeure. Ça, je suis pas obligé. Je ne suis pas obligé de me disputer avec un lion. Même si tu m'as payé pour que je te garde, mais dans cet argent-là, il n'est pas inclus dedans que je me bagarre avec un lion. J'ai le droit de m'enfermer.
Imaginez maintenant que j'ai des taureaux, il y a un copain qui veut lui confier un taureau. Quoi? Et un de mes taureaux va tuer le taureau qu'on m'a confié.
J'ai un taureau, un autre il m'a confié son taureau.
Payant, oui. Et un de mes taureaux, il a tué le taureau, il a encore un taureau. C'est quoi ça?
Mon taureau a tué le taureau de gardien?
Oui, mais il y a des déchetés aussi.
Qui les lions, les taureaux.
Le taureau du gardien a tué le taureau.
Il y a écrit un lion ici.
Ouais.
Il y a écrit qu'il a été mis en pièces.
Ouais.
Le taureau du gardien est venu, il a mis en pièces le taureau, il a déchiqueté, il a.
Là, il est obligé de payer.
Mais.
C'est son taureau. C'est son taureau.
Alors, et c'est pas son
taureau. Il aurait pu protéger, il aurait pu mettre dans l'enclos.
D'accord, et c'est son taureau, j'ai compris. Maintenant, je suis un gardeur professionnel de taureaux. Je garde le taureau de Shimon, le taureau de Yitzhak, le taureau de. Ils sont dans mon enclos.
Ouais.
Le taureau de Yitzhak, il a déchiré le taureau de Jacob.
Vous êtes obligé de payer parce que vous devez vous mêler. Il faut. C'est seulement un lion, c'est dangereux.
C'est seulement un lion, alors là. Oui. La déchiqueture, c'est.
C'est quelque chose qu'on peut rien faire, mais contre un taureau, vous pouvez vous lever. Vous pouvez protéger. Vous êtes obligé de protéger. Vechi Ishal Ish. Mais Imre Ehu, un homme qui a emprunté de son copain, il a emprunté quoi? Il a emprunté un taureau de son copain, il avait besoin de labourer la terre. Il a emprunté le Nishbar, et le taureau il s'est cassé au mètre où il est mort. Alors un homme il emprunte, et le taureau il meurt. Et pourquoi il est mort? Comme ça, il a une crise cardiaque, on ne sait pas pourquoi. C'est arrivé son dernière heure. Baalav Enimo. Si le propriétaire n'est pas là, Shalem Yeshalem, l'emprunteur, il doit payer. Malgré que ce n'est pas lui qui est fautif, que le taureau, il est mort. Le taureau, il est mort, la foudre est tombée. Eh bien, il est quand même obligé de payer. Pourquoi? Pourquoi? Mais ce n'est pas mon taureau, c'est ton taureau. Tu m'as prêté le taureau. Ce n'est pas moi qui ai fait quelque chose. Pourquoi?
Pourquoi mieux la deuxième option, en fait. Quand il y a le propriétaire, il ne paye pas.
C'est un peu normal. Il peut voir qu'il a rien fait spécial, il n'a rien fait, il faut que le taureau meure.
Ah, non, le propriétaire n'était pas là.
Voilà.
Si le propriétaire n'était pas là, Shalem Yeshalem doit payer. C'est quoi la logique? Pourquoi un emprunteur il doit payer? C'est pas lui qui est fautif que le taureau.
C'est comme quand quelqu'un il va prendre une voiture sans chauffeur, il veut dire avec chauffeur. Si il prend une voiture avec chauffeur, qui est propriétaire de la voiture, et le chauffeur il casse la voiture, c'est le propriétaire de la voiture qui était là et c'est lui qui s'en a dû. Si maintenant il prend la voiture sans le chauffeur, c'est lui qui a la responsabilité totale du système. Il est responsable.
Mais c'est pas ma faute. Quelqu'un m'est rentré dedans. Je roule normalement dans la rue, quelqu'un m'est rentré dedans. Cas de force majeure, vous payez quand même, monsieur. Vous payez. Pourquoi ?
Quelle est cette logique ?
Parce qu'un emprunteur, c'est comme un acheteur. C'est comme si vous l'avez acheté, la voiture, en vérité. Emprunter, la philosophie de emprunter, c'est comme ça. J'achète la voiture, c'est à moi. Et je dois vous payer. Avec quoi je vous paierai ? En vous rendant la voiture à la fin de la journée. Vous me prêtez la voiture à la fin de la journée, je redonne, c'est-à-dire j'achète la voiture. Je vous dois une somme d'argent. Mais si le soir je vous rends la voiture, alors je ne suis plus obligé de payer. Mais si je ne rends pas la voiture le soir, je suis obligé de payer. Malgré que ce n'est pas ma faute que la voiture n'existait pas. Emprunter, c'est acheter en vérité. Emprunter, c'est j'achète et j'ai une dette de rembourser. Point. La voiture vaut 10 000 euros, vous me prêtez votre voiture, j'ai une dette de 10 000 euros. Mais si le soir la voiture est en bon état et je vous rends la voiture, alors dans ce cas-là, les 10 000 euros sont annulés. Si je ne rends pas la voiture, je dois payer les 10 000 euros parce que je l'ai acheté. C'est comme si j'ai dit au propriétaire, si je ne vous rends pas, en vérité, je vous achète la voiture. Ça, c'est la philosophie d'un prêt.
Mais si la voiture, elle a 200 000 km au compteur, et elle est quand même vieille. Il lui prête la voiture, elle ne tombe en panne au moment où il le prêtait.
Il lui remboursera la même voiture.
Ah, il remboursera au prix. Au prix,
c'est le prix de la voiture.
À 200 000
km. Il va prendre la bus, c'est sûr.
Im ba'alav imo, si le propriétaire est avec lui, c'est-à-dire que si j'ai pas seulement emprunté 100 euros et j'ai emprunté le patron aussi, j'ai dit au patron, venez donner à manger à votre taureau.
Le patron, il ne s'est pas départi de sa propriété en fait. Il a gardé toujours la propriété.
Alors, l'oyeshalem, alors l'emprunteur n'est pas obligé de payer.
Parce qu'il n'est pas considéré comme un acheteur, parce que ba'alav, c'est le propriétaire. Donc il n'est pas, il n'a pas le statut d'acheteur par rapport à ce qu'on a dit tout à l'heure.
Oui. Im sakhir hu, et si c'est une location, si j'ai pas emprunté mais une location, si c'est une location, et quoi, et le taureau il est mort, dans ce cas-là je suis pas obligé de payer. Ba bischaru, il vient grâce à son salaire. C'est-à-dire quoi, ba? Ba, c'est-à-dire il doit partir. Le propriétaire doit partir, bischaro, avec son salaire. Je lui ai payé un salaire. Je voudrais louer votre voiture. Donc, je vous paye ici 50 euros, je vous paye 100 euros de louer votre voiture. Dans ce cas-là, si la voiture y est par un accident, était accidentée sans ma faute, j'ai dit, monsieur, vous reprenez la voiture accidentée. Je vous ai donné une voiture qui vaut 10 000 euros, maintenant il vaut 1 000 euros. Payez-moi. J'ai dit, mais je vous ai payé le salaire. Les 50 euros que je vous ai payés, fait que quoi? Que maintenant, ce n'est pas ma voiture. Si j'aurais emprunté gratos, vous me prêtez. Dans ce cas-là, moi, j'achète la voiture et je suis obligé de payer les 10 000 euros. Mais si j'ai loué la voiture, je vous paye pour la voiture. Donc, bah, bischaro, bah, c'est-à-dire il doit retourner, le propriétaire doit retourner bischaro avec le salaire qu'il a reçu. Alors, quel est le dîne? Si quelqu'un... il veut emprunter une voiture pour une journée. Et au milieu de la journée, il téléphone et dit, non, monsieur, en vérité, je ne vais pas emprunter. Je vais plutôt vous louer la voiture. Je vais vous louer la voiture.
Il faut l'amener pour vérifier.
Alors, qu'est-ce que c'est? Pourquoi vous êtes si sadique? Je vous ai prêté, je vous prête jusqu'au soir, gratos. Pourquoi à midi, il me dit, non, je vais payer. Qu'est-ce qui arrive, Mr. Il y a un pépin. Et il veut vite transformer en location. Alors.
Voilà.
Vechi et Faté, il y a des gens comme ça qui changent au milieu les conditions pour. Vechi et Faté Ish, un homme qui a séduit Betula, une jeune fille. Asher Lo Orasa, qui n'est pas encore fiancé. Vechabima, il a vécu avec elle. Vechi et Faté, donc il a séduit, donc elle était d'accord, il a séduit. Elle était d'accord. Mahor yimharena lole isha. Mahor, c'est quoi Mahor? Mahor, ça veut dire une dot. Mahor yimharena lo, une dot, qui la dotera comme femme. Ça veut dire qu'il paye une dot et qu'il la prendra comme femme. La Torah fait une mitzvah de la prendre comme femme. Pourquoi? Parce que la fille, elle a un droit d'exiger qu'on la marie. C'est-à-dire, la fille, elle a honte. Tu m'as tourné la tête, tu m'as embrouillé, maintenant je suis une fille qui ne vaut pas très cher, les gens ils se moquent de moi. Elle dit, j'ai peur de plus trouver un chidour. Elle a fait une bêtise, elle ne trouvera plus de chidour.
Excusez-moi, séduit, c'est pas violé.
Non, séduit, c'est pas violé. Elle était d'accord, mais tu m'as tourné la tête, tu m'as saoulé, alors je me suis laissé faire. Tu m'as saoulé, tu m'as embrouillé, et c'est un voyou. Parce que moi, je n'ai pas voulu, en fait, je n'ai pas voulu. Tu m'as tourné la tête jusqu'à ce que tu m'as embrouillé, j'étais d'accord. Mais en vérité, dans le fond, je n'ai pas voulu. Et donc, maintenant, ma géante, personne ne veut se marier avec moi. Alors, je veux que toi, tu te maries avec moi. Eh bien, il a une mitzvah, il a une obligation de se marier avec elle, oui. Et moi, avec une dot, comme toutes les filles juives. Toutes les filles juives, quand on les marie, on leur fait des cadeaux. Et bien, tu me fais aussi des cadeaux, ne dis pas. Bon, d'accord, tu te maries avec moi, mais sans cadeau. Non, 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 tu me donnes des cadeaux comme c'est la coutume. Il doit faire de mohar comme qu'on donne à chaque femme. Mais si le père intervient, il a interdit. Il veut pas, non, je ne veux pas donner ma fille à monsieur. Non, 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 monsieur, je ne vous donne pas ma fille. Alors, qu'est-ce que je colle que moi à Betulot? Dans ce cas-là, le patron, le père, il peut recevoir d'argent. Tu as séduit ma fille, tu es obligé de me payer, monsieur. C'est-à-dire, si le père il est d'accord qu'il épouse la fille, il ne paye pas. Le père, il peut dire, je ne veux pas que vous épousez ma fille, si vous ne me plaisez pas, donc il ne peut pas épouser. Mais tu as fait mal à ma fille, tu es obligé de me payer.
Excusez-moi, il paye toujours dans les deux cas. Puis c'est à côté, il doit la doter. La doter, c'est quoi la doter? C'est lui donner de l'argent. Et d'un côté, c'est soit il donne à la fille, soit il donne au père, en fait. C'est pas parce que le père refuse de la marier qu'il ne doit pas donner d'argent. Simplement, l'argent, il le donne au père. C'est ça?
Alors, Rachid et Mahor, il ne pouvait pas dire donner de l'argent maintenant. Rachid Fatima, il écrit que s'il divorcera, il payera. C'est la Ketouba. Il fait un contrat de mariage. Rachid Fatima, il ne sait pas quand je dis un cadeau. Il fait un contrat de mariage que si jamais je divorce cette femme, je lui payerai comme chaque homme qui divorce sa femme. Shalom. Alors, si le père il refuse, il faut payer tout de suite cet argent-là. S'il refuse de marier sa fille, dans ce cas-là, il faut payer tout de suite les 50.
D'accord.
Mais si le père il marie sa fille à ce monsieur-là, donc le monsieur ne doit pas payer maintenant, mais il doit faire un contrat de mariage que si jamais il divorce, il payera. Alors, merci. Donc, Pasuk Yudzaïn. Mechasheifa lotechaye. Une magicienne lotechaye ne laissera pas vivre.
D'accord. C'est quoi? Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas ce que c'est quoi une magicienne.
Oui, aujourd'hui, on ne connaît pas tout ça. En tout cas, une magicienne, c'est une espèce de personnage qui utilise des subterfuges, de mensonges, du baratin, pour s'accaparer l'argent des gens, pour s'accaparer la crédulité des gens, et qu'elle fait des choses pour que les gens soient émerveillés et qu'ils racontent leurs secrets. Une magicienne, c'est une personne à qui les gens font confiance grâce on appelle ça hocus pocus. On appelle ça grâce à la magie, grâce aux merveilles. Elle fait du merveille. Elle impressionne son public pour que les gens y croient qu'elle a des forces supérieures. Et après, elle s'accapare l'argent des gens.
D'accord, alors deux questions. Première question, c'est pourquoi une sorcière parle aussi à un sorcier? Il n'y a que les femmes. Ça ne s'adresse qu'à des femmes, ça ne s'adresse pas aussi à des hommes. Et deux yeux, des baratineurs, il y en a 50. Il y a quelqu'un qui peut. En quoi c'est mieux? Enfin, je veux dire, quelle différence il y a avec quelqu'un qui a un genre Madoff qui va baratiner à ses clients en leur prévoyant des trucs géniaux et tout? Et ça, c'est des escroqueries, c'est pas. C'est on ne voit pas que quand quelqu'un il vole de l'argent à quelqu'un, c'est un. On doit le tuer. Quelle dimension il y a de plus qui justifie la mort? Parce qu'après tout, c'est du vol. On baratine quelqu'un en lui prenant son argent, ce n'est que du vol.
Alors, il n'y a pas que du vol. Ça peut être. On peut faire beaucoup plus que du vol d'argent. Le magicien, la magicienne, le fait qu'elle elle présente un pouvoir surnaturel, elles sont capables de faire beaucoup plus que voler l'argent. On peut faire une secte, on peut amener les gens à suivre jusqu'à la mort. On peut créer des guerres, on peut embrouiller les gens pour qu'ils deviennent des assassins. On peut envoûter les gens de telle façon que les gens sont tellement aveuglés qu'ils peuvent suivre cette personne jusqu'à tuer ou se faire tuer ou créer une religion. On peut aussi créer une magicienne. Une magicienne peut créer des religions.
Pourquoi c'est qu'une femme?
Alors, Rachid dit pourquoi une femme? Parce que ce métier est plus donner aux femmes. Les femmes, elles ont plus de pouvoir de le faire. Ça peut, elle peut jouer peut-être avec son corps pour séduire. Ça fait peut-être aussi partie du jeu des fascinés. Mais le Maasé, on voit le christianisme, il est né par la magie. C'est la magie, c'est l'autre. Il a fait des guérisons par la magie. Et les ignares et les simples, ils sont tombés sous la charme de cet homme. Et cet homme-là, il a provoqué, la chute du peuple juif. C'est la destruction du temple était à cause de lui. Ces gens-là, probablement, c'est eux qui ont fait la guerre. Je ne sais pas si c'est historiquement. On dit qu'il y a des gens qui croyaient qu'ils peuvent gagner contre les Romains. Les Chachamim, ils ont dit on ne peut pas gagner contre les Romains. Il y a des gens qui croyaient vraiment qu'ils peuvent battre les Romains parce qu'ils étaient, probablement, ils étaient par des idées messianistes. Les idées messianistes, ça c'était les chrétiens qui étaient remplis des idées messianistes. On peut pousser un peuple vers le suicide, vers la guerre, des folies. Et une religion, ils ont créé une religion, et puis ils ont obligé le monde entier de les suivre. Hein. Et la magie, c'est quelque chose de terrible. Avec la magie, le meilleur truc, c'est le christianisme. C'est le complot mondial qui a commencé avec la magie. Embouter les gens. Et c'est pas un meurtre, c'est des meurtres de millions de gens.
Un homme qui agit comme une femme sorcière, lui aussi serait condamnable, en fait.
Évidemment, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Non, mais normalement, Rachidi a plus des femmes qu'elles font ça. Mais.
C'est comme on dit un menuisier, mais s'il y a une femme qui fait du menuisier, on va dire une menuisière, on dit un menuisier, quoi.
Oui. Maintenant, pas chaque magicienne. Pas chaque magicienne, pas chaque magicien, il fabrique une religion. Mais on ne sait jamais comment ça va finir. Ça commence avec un petit truc et on ne sait pas où ça finit. Et ça, c'est un grand danger. C'est un grand danger, embrouiller les gens. C'est embrouiller, c'est fasciner avec du surnaturel. Les gens, ils perdent la tête, ils perdent toute notion de moralité après. On peut faire l'adultère. On peut faire l'adultère. Et un magicien, il embrouille les gens. Il peut amener une secte à l'autosuicide, à l'adultère, à toutes les immoralités. Parce que l'esprit des gens est titanisé devant un magicien.
C'est pour ça que c'est collé avec la suite, avec celui qui a un rapport avec une femme.
La suite, c'est Kol Shochev im Behima Mot Yomat. Ce qui vit avec un animal sera mis à mort. C'est l'immoralité, du top de l'immoralité qui peut exister, la zoophilie. C'est marqué à côté de la magicienne pour nous faire une allusion que quoi que la magie peut amener les gens à perdre tellement la tête jusqu'ils sont prêts à vivre avec des animaux. La chose la plus dégoûtante. On peut amener les gens à faire la chose la plus dégoûtante qui existe au monde. Et Mechashefa, avant se marquer de quoi? Un homme qui a séduit une fille. Avant dit un homme qui a séduit une fille. Alors c'est aussi la séduction. Avant on parle un garçon, un homme il séduit une fille, il est obligé de payer un knas ou se marier avec elle. C'est la séduction et maintenant on arrive à la séduction par la magie, par des choses surnaturelles. Le maasé, même la publicité, c'est aussi une sorte de séduction. Aujourd'hui, on séduit les gens d'acheter des choses que les gens n'ont pas tellement besoin. On crée le besoin, on promet aux gens. C'est un grand problème, la publicité. Ce n'est pas pachoute, c'est une séduction. Et les gens, ils ont du mal à refuser. Quand on séduit les gens, ils ont du mal à refuser. Et les gens, ils achètent. Ils n'ont pas d'argent. Et ils achètent au crédit. C'est un grand problème. Acheter une maison au crédit, partir aux vacances au crédit. Et crédit, crédit, crédit. C'est, le monde entier marche sur des crédits.
On trompe les gens.
Et après, les gens ne sont pas capables de payer. Ils font faillite. Après, la banque prend la maison. C'est un problème majeur pour tout le monde entier. Et ça vient souvent à cause de la séduction. Séduire. Le banquier veut séduire les gens qu'il mette, qu'on file leur argent. Le vendeur d'une marchandise veut séduire les clients pour que les clients achètent sa marchandise qu'il n'a même pas besoin. Il n'a pas besoin de cette marchandise. Tu veux vendre ta voiture. Renault veut vendre la voiture. Ils font des publicités partout. Pourquoi tu fais la publicité? Si l'autre veut acheter, il sait qu'on peut acheter des Renault. Pourquoi tu marques partout? Tu as un Renault à vendre. Et s'il veut une voiture, il vient l'acheter chez toi. Non, parce que j'ai peur que les clients ne vont pas venir chez moi. Pourquoi? Parce qu'il en a une voiture qui roule déjà. Il a une voiture qui roule. Mais j'aime mieux qu'il change la vieille voiture pour qu'il achète une nouvelle. Alors on lui tape dans la tête. Et on met une femme à côté du Renault, comme si le type il veut vendre un Renault et mettre une femme à côté.
C'est de la séduction en fait.
C'est la publicité, ça marche par la séduction. C'est un truc lucratif. Et la publicité, il y a beaucoup de mensonges dans la publicité, beaucoup, beaucoup de mensonges. Même dans le métier de publicité, il y a des gens qui font du journal et ils font pas. Barata. Beaucoup le monde entier roule sur du. Dans la politique, il y a beaucoup de mensonges. On promet aux électeurs. Kol shochev behema mot yumat. Ceux qui dorment avec un animal, il sera mis à mort. Ça, c'est le pire des choses dégoûtantes. Mais même ça, ça peut exister. Zoveach la Elohim yocharam bilti l'Hashem levado. Zoveach, ce qui égorge une bête, qui sacrifie une bête, la Elohim. C'est quoi la Elohim? Pour des forces, pour des dieux. C'est pas le vrai dieu. Pour les faux, pour les faux dieux, pour l'idolâtrie, Yochoram. Yochoram, c'est un mot très fort. Yochoram, c'est dire il sera exterminé. C'est bien de la chanson Cherem. Cherem, c'est dire quarantaine. Il doit être liquidé.
C'est pire que Mot. Peut me mettre, ou bien c'est par rapport à mourir, c'est quoi?
Non, c'est mise à mort, mais le mot, il est spécial. Alors, on dit toujours mot yumat, il mourra. Ici, la Torah utilise un autre mot. Pourquoi elle utilise un autre mot? Pourquoi le mot yochoram?
Peut-être que vous avez une notion de violence, pas tous les moyens.
Cherem. Cherem, cheram. Cherem, ça veut dire. Exterminer, c'est plus qu'est mis à mort, mais on peut pas faire plus que ça.
Ah, peut-être que ça veut dire que c'est par tous les moyens, on doit
moyen, Yoram.
Ça se trouve, il n'y a peut-être même pas besoin d'avoir le condamné, alors que les autres, peut-être qu'il faut qu'il y ait un bédine là, ou quelqu'un qui sacrifie.
Non, là, ben, c'est aussi, il faut...
Il faut le juger.
Il faut le juger, oui. Biltil Hashem Levado, uniquement pour Dieu. Tu ne peux faire des korbanot que pour Dieu. Alors, il y a un autre pshat, c'est pas un pshat, mais que ici, le Elohim, ça veut dire en vérité Dieu. Ce mot Elohim, c'est Midat Hadin. Et la Shem Yud Kevavke, c'est Midat Arachamim. Et les korbanot, ils sont faits pas pour Elohim, mais pour Hashem. Pas, on ne s'adresse pas à la rigueur, on s'adresse à la bonté de Dieu. Un sacrifice doit être fait à la bonté de Dieu, pas à la Midat Hadin. Pourquoi Midat Hadin, on ne peut pas faire des sacrifices. Parce que c'est un genre de falsifier les jugements. Quand Dieu il juge, il doit être correct. Tu ne peux pas lui sacrifier quelque chose comme si tu veux donner des pots de vin. À la rigueur de Dieu, on ne peut pas donner des pots de vin. Mais tu peux faire appel à sa bonté. La Shem Yud Kevavke, Dieu il a une bonté. Tu peux dire à Dieu, j'ai fait appel à ta bonté. Et je fais un sacrifice pour que tu te tournes vers moi pour ta bonté. Mais pas ta Le jugement doit être juste.
Peut-être que c'est comme quand quelqu'un qui est en colère, ça ne sert à rien de lui parler, de mettre que la colère elle se repose pour aller faire une action vers lui. Pour Hachem, c'est pareil, quand il est dans sa phase de dîme, il faut mieux laisser passer. Après, on peut aller...
Oui, ou un autre exemple, quelqu'un, il est chez le juge. Alors, il va dire, je vous demande pitié. Tu me demandes pitié à titre de quoi ? Que je change les lois pour que j'aille pitié sur toi, moi je ne peux pas changer les lois pour vous. Je peux dire, la loi dit que vous êtes condamné, mais j'ai pitié sur vous. Et puis il dit, voilà, j'ai des petits-enfants, si vous me tuez, qui va nourrir mes petits-enfants, pitié. Vous voulez quoi, la pitié? Qu'on a pitié. La loi dit que vous méritez la mort, vous voulez qu'on a pitié sur vous, peut-être. Mais si j'ai dit, je vous demande pitié, changez vos lois et dites que ceux qui font ce crime ne méritent pas la mort. Ah non, ça on ne pouvait pas, monsieur. On ne peut pas changer les lois pour vous. Les lois sont inchangeables. Donc, Sobeach l'Elohim, ce qui fait un korban à la Midat Hadin, aux règles, aux principes des règles que Dieu il a fixées. Yocharam, ça c'est rejeté. Bilti l'Hashem levado. Tu peux demander pitié à Hashem, à Yud Kevavke. Mais guerre l'otoné. Un étranger l'otoné, tu n'as pas le droit de vexer. Velotil chatsenu, et tu n'as pas le droit de le oppresser.
On dit guerre ici, c'est un converti bien annoncé.
Un guerre, qu'est-ce que c'est un guerre? Est-ce que c'est un converti ou est-ce que c'est quelqu'un qui habite en Eretz Israël qui accepte les chefs et mitzvot béni noir? Soit un guerre, c'est un homme qui a fait 613 mitzvot. Qui a accepté, soit guerre, c'est quelqu'un qui accepte les chefs à mitzvot, qui va être un goy correct, l'otoné, tu n'as pas le droit de le vexer. Velotil chatsenu, et tu n'as pas le droit de l'oppresser. Qui guère mite, mère, etc., parce que vous étiez aussi guérim en Égypte. Vous savez comment ça fait mal quand on est un étranger. On a le sentiment de l'infériorité. Un étranger, c'est du racisme. Un étranger, vexer un étranger, c'est du racisme. La Torah, elle est contre le racisme. Qui guérimide, vous avez senti ça. Alors, Kol Almana Veyatom Lotanun, toute veuve et orphelin, Lotanun, vous n'avez pas le droit de faire souffrir. N'importe quel homme, on n'a pas le droit de faire souffrir. Mais la Torah donne une interdiction spéciale pour une veuve et pour un orphelin. Parce que ce sont des gens qui ont du mal à se défendre. Ce sont des gens qui sont faible. Alors, ça fait beaucoup plus mal. Tu, au moins, si tu attrapes un homme et tu le fais souffrir, alors lui, il va se défendre.
Jusqu'à quel âge une femme, elle est, jusqu'à combien de temps après le décès, elle est considérée comme veuve, une femme?
Une femme veuve, jusqu'elle se remariera. Et un orphelin, jusqu'il peut se débrouiller tout dans sa vie. Orphelin, ça s'appelle tant qu'il n'a pas de... Oui, il ne... oui, quand il est grand, il est adulte, il se défend bien, alors ça, c'est bon. Mais tant qu'il n'a pas ça, il est orphelin. Im ané te ané oto. Si souffrir, tu le fais souffrir. Pourquoi il y a deux fois le mot ané te ané? Et c'est même trois fois, l'autre anun im ané te ané. Parce qu'une souffrance amène l'autre souffrance. Quand on rentre dans la dynamique, on se moque d'un orphelin, d'une veuve, c'est toujours plus, c'est plus. Im anete aneoto ki, im tsaok itzak elai, car quand il criera vers moi, il va hurler quand on lui fait tort. Shamoa eshmatza akato, je vais écouter son hurlement. Itzaok itzak, il va hurler plusieurs fois. Et shamoa eshma, moi je vais écouter plusieurs fois. Bechara api, et ma colère va s'enflammer.
Ça veut dire que est-ce qu'on peut comprendre que bon, si on l'embête une fois, ça va, mais quand il y a une répétition, ça ne va plus.
Eh bien, tu vas le pousser vers crier vers Dieu. C'est-à-dire, tu vas l'embêter jusqu'il va crier vers Dieu. Et tu embêtes jusqu'à l'autre écrit vers Dieu. Et quand il crie vers Dieu, eh bien, Dieu, il intervient. Shamoa eshmatza akato, j'écouterai son cri. Vachara api, ma colère va s'enflammer. Vaharakti etchem becharef, je vais vous tuer avec l'épée. Vayun eshechem almanot, vos femmes vont être veuves. Uvenechem yetomim, et vos enfants des orphelins, ça veut dire ce que vous avez fait aux veuves et aux orphelins, je vous ferai. Alors, im kesef, talve et ami, si de l'argent tu prêtes à mon peuple. Si de l'argent tu prêtes à mon peuple, c'est-à-dire quand tu prêtes à un juif, il faut que tu saches, tu prêtes au peuple de Dieu. Donc c'est une grande mitzvah. Et Heani, Imach, le pauvre qui est chez toi, l'otieloke noché, ne sera pas pour lui comme un oppresseur, un réclamateur. Noché, c'est quelqu'un qui sous l'autre rembourse moi. Tu n'as pas le droit d'être sur lui un noché, parce que quand on a prêté de l'argent, on peut après embêter l'autre. Et on peut l'utiliser après. Quand l'autre il doit de l'argent, il ne veut pas payer, il ne peut pas payer, alors on l'utilise pour d'autres choses. L'autre ici, mon alav nesher. Ne mette pas sur lui des intérêts. Ça veut dire que tu vas profiter maintenant. Le fait que je t'ai prêté 100 000 euros, tu ne me rembourses pas. Tu me rends ce service, et tu me rends ce service, il devient ton serviteur. C'est à la mafia, eux ils travaillent comme ça, ils prêtent à quelqu'un, et comme le type ne peut pas rembourser, il devient après un tueur à gage, ils utilisent comme ça.
D'accord, mais là, quand lui, pas d'intérêt, c'est un intérêt genre rébit.
Oui, ça c'est le rébit, ça c'est l'histoire de rébit de cette Torah, on n'a pas le droit de prêter avec intérêt.
Mais intérêt, c'est genre... Parce que ce que vous disiez, c'est un intérêt. Voilà, tu me dois de l'argent, alors tu vas faire du
travail
pour moi ou tu vas aller.
Ça a aussi un intérêt. L'autre ici, mon avnecher. Ça, c'est l'issour de prendre des intérêts. La Torah veut qu'on fait des prêts gratos. Pas par intérêt. Im chavol tachbol salmatrecha. Si tu prends comme gage l'habit de ton copain, les types ne remboursent pas. Toi, tu veux être rassuré qu'ils te remboursent. Alors tu dis, monsieur, vous avez ici un manteau, je prends votre manteau comme gage. Im chavol tachbol. Si gage, comme gage, tu prends l'habit de ton copain, adbo hachemesh, quand le soleil se couche, tu chevenu l'autre, tu dois lui rendre. Ça veut dire quoi? La journée, tu dois lui rendre son habit. Jusqu'au coucher du soleil, rentre à la maison, tu peux reprendre le manteau le matin, tu dois lui donner le manteau et le soir, tu le reprends.
Il puisse travailler, tu
Alors, non, ici, le contraire. Ici, on parle l'habit de la nuit. Salmat, ici, c'est l'habit de la nuit. Adbo Shemesh, jusque le soleil se couche, tu dois lui rendre, c'est-à-dire quand le soleil se couche, tu lui rendras l'habit. L'habit pour qu'il a besoin pour la nuit, on parle. Kihi Kesuto Levada, car elle est son habit seul. Isim Lato Le Oro, c'est son habit pour sa peau. Bame Edishkaf, avec quoi dormira-t-il si tu ne rentres pas? Si tu ne lui rends pas la couverture de la nuit, il aura froid la nuit. Vaya ki itzakelai, et il sera quand il va crier vers moi. Peshamati, j'écouterai. Ki chanunani, car j'ai pitié. Je vais l'écouter, et lui, il va crier quoi? Dieu, comment ça se fait que ce Richard, qui m'a prêté de l'argent, il m'a enlevé mon habit, et il ne m'a pas redonné, j'ai froid la nuit. Lui va hurler vers Hachem, et j'écouterai. Et après, ça va tourner mal pour ceux qui ont prêté de l'argent, parce qu'il était cruel, il n'a pas eu pitié de rendre l'habit à l'autre.
Alors, une question, par exemple, au début, en revenant, c'est au pauvre qui est avec toi, tu ne prendras pas d'intérêt. Au pauvre, il parle de pauvre. C'est-à-dire, si on prête à un riche, il peut acheter une maison.
Aussi, c'est la même chose, c'est la même chose.
C'est la même chose.
C'est la même chose, parce qu'il y a une autre passage dans la Torah où on parle des riches aussi. Ici, c'est l'avdaf, que pourquoi la Torah parle du pauvre, Rashi dit, pour donner priorité à prêter à un pauvre. Un riche, un pauvre qui veut l'emprunter, il faut d'abord prêter à un pauvre. C'est pour ça que la Torah parle au pauvre.
C'est exactement le contraire des banques.
Il ne prête que aux riches. Un riche, il me demande que je lui prête 100 000 euros, il veut acheter une maison. Le pauvre, il me demande 2 000 euros parce qu'il veut acheter quoi à manger. Alors moi, j'ai d'abord, je dois prêter à un pauvre. Rashi, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Im kesef tal vitami, Rabbi Ishmael Omer, kol im, ve im, sheba Torah reshut chutz migimel, ve zechad mehem. Normalement, im, si, c'est facultatif. Si tu fais telle et telle chose, c'est facultatif. Non, im c'est facultatif, sauf trois fois que la Torah utilise le mot im et c'est une obligation. C'est-à-dire, im kesef, c'est pas si tu prêtes, si tu as envie de prêter, mais c'est une obligation de prêter. Tu as de l'argent qui dort, que tu n'as pas besoin. Il y a un pauvre qui est pris à la gorge et il te demande, il faut que tu lui prêtes. Et ami, mon peuple, Rachidi, ami ve ovek khabim, ami kodem. Un yid, un non-yid qui demande un prêt, il faut une priorité à mon peuple. Même s'il veut prêt, oui. Il me semble, sauf si c'est beaucoup d'intérêt, si c'est vrai parnassa, non. Mais si c'est pour un petit broutille, il faut donner un yid. Ani va achir, un riche et un pauvre, ani kodem. Il faut d'abord prêter aux pauvres. Ani ircha, les pauvres de ta ville, vani al-acherat, les pauvres d'une autre ville, ani ircha kodemim, les pauvres de ta ville, ils ont priorité. C'est marqué et ani imach. Le pauvre qui est avec toi, qui habite à côté de toi, il faut d'abord avec quelqu'un de ta ville. Pourquoi? C'est quoi la logique? Parce que si les riches de cette ville, ils ne prêtent pas aux pauvres de cette ville, de notre ville, alors les pauvres de notre ville doivent venir ici. Alors ça embête tout le monde. Que chacun s'occupe d'abord aux gens autour de lui.
C'est quoi les deux autres fois où le hymne veut dire...
Il y a trois fois dans la Torah. Quelles sont les autres deux? J'ai oublié. Je le savais une fois, Rashi dans le Chumash le dit, chaque fois qu'on ce truc, Rashi le fait remarquer, c'est aussi une obligation, mais j'ai oublié. Alors, vezé mashmo im kesef talve et ami talve hu kodem lo vekrovim leizim ami et ani. Le pauvre qui est avec toi. Et Rashi dit et ani imach, Rashi traduit, regarde sur toi-même comme si toi tu étais pauvre. Et Tani Imach, le pauvre qui est chez toi, qui est en toi. C'est-à-dire, chacun, il est en théorie un pauvre. Chaque riche, il aurait pu être pauvre. Il pourrait devenir peut-être un pauvre un jour. On ne peut jamais savoir comment les événements vont tourner. Donc, quand tu es riche, imagine-toi que tu es pauvre. Et tu aurais demandé l'argent. Tu aurais bien voulu que quoi? Que l'autre ait la pitié de toi. Alors comme ça, tu dois aussi t'imaginer. L'autre est le que nocher. ne sera pas sur lui comme un nocher. C'est quoi un nocher? L'otit ben obechoska, ne le réclame pas l'argent avec force, avec insistance. Imateyodea, si tu sais chez Enlo qu'il n'a pas l'argent. Il n'a pas d'argent, qu'est-ce que tu le saoules? Altidome alav kiilu hilvito, ne fais pas comme si tu lui as prêté. Et le kiilu hilvito, comme si tu ne t'aurais pas prêté. Kloma, l'otachlemé, ne lui fais pas honte. Ça veut dire, si l'autre, il a de l'argent, il ne veut pas rembourser, c'est autre chose. Là, j'ai le droit de le saouler. Tu me dois de l'argent. Tu as de l'argent à rembourser, ça, moi, tu ne veux pas. Là, je peux dire, non, ça ne marche pas comme ça, tu dois rembourser. Quand il peut, mais quand il ne peut pas, alors tu peux dire, hein, je t'ai prêté, hein, alors qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sais que l'autre ne peut pas rembourser, alors tu n'as pas le droit de lui rappeler. Nesher. Nesher, l'autre. Ici, on a Nesher. Nesher, la traduction, Nesher, c'est Neshira, c'est morsure. Ribetchou, que Neshira, c'est comme une morsure de Nahash. Nesher, ça vient de mot morsure, ça vient de mot Nahash comme serpent. Alors, pourquoi cette comparaison? Chez Nahash, Nesher, Chaboura, Ketana, parce que le serpent est mort, une petite blessure, Baraglo sur le pied et dans le pied. Beno, Margi, chez l'homme, ne ressent pas que c'est grave. Ou pitom ou matzpets, vous nous faites kotkodo, et après le sang, avec le venin, monte jusqu'au cerveau. Car ribit, comme ça, les intérêts. Et nos marguiches, on ne le ressent pas, ouais, 2%, 3%, c'est pas grave. Veni ni karatcha ribit, ole ou machasro, mamon harbe. Les ribit, c'est quelque chose, on prend toujours, oui, prêtez-moi, j'ai pas l'intérêt, ouais, qu'est-ce qu'il y a, 5%, 7%. Autrefois, en France, il y avait 14% qu'on a emprunté. 14%. Maintenant, il débitait beaucoup moins. Il demandait 14% à la banque.
C'est cher, je me
rappelle. Et les crédits de trucs prenaient 19%. Tu veux acheter une voiture, tu payes 19%. C'est-à-dire, après, pour 5 années, c'est le double du prix. C'est double du prix.